La première, podcast.
La première.
22h, 23h.
Oui.
Par oui dire.
Oui, oui.
Pascal Tison.
A parte il fatto che bisogna vedere quanto scatole si porto d'arme. Comunque.
Tra le strade saracene, mille chiese d'altri tempi, ci si incontra tanta gente, non per vivere per niente.
Dimmi.
C'est un art.
Par oui dire. Une série sur Debussy et son époque, c'est une réalisation de Cécile Posse en 5 épisodes. On écoute le premier, un épisode qui nous fait valser d'un mouvement artistique à l'autre. Il est consacré à l'impressionnisme.
La musique de Debussy, c'est la musique de l'indécis.
Debussy est un symboliste.
Debussy, résonance artistique. Premier épisode, l'impressionnisme.
Paris sera la première ville du monde à subir un bombardement aérien.
Il faut être passé par une crise.
Un autre progrès énorme, c'est la chirurgie esthétique.
Il est vraiment le musicien qui ouvre le XXe siècle.
Le 11 novembre, on devait attaquer le matin. Tout d'un coup, vers 8h moins 20, il y a le cycliste qui est arrivé. Il a arrêté les gants, il dit, c'est fini à 11h, on voulait pas le croire, mais on n'a pas avancé 20 cm de plus, je vous le jure, on a arrêté pile.
Nous sommes rentrés dans une église, et puis le curé nous a mis en église, et on a sonné les cloches pendant 24 heures en se réveillant.
Claude Debussy succombe à un cancer quelques mois avant la fin de la Grande Guerre. C'était le 25 mars 1918. Lui qui aurait voulu être marin avait une devise, toujours plus haut. C'est à Saint-Germain-en-Laye, le 22 août 1862, que Manuel Achille Debussy et Victorine Manoury donnent naissance à Claude Debussy. La guerre franco-prussienne de 1870 pousse les Debussy à se rendre à Cannes, chez la tante Clémentine. Les dons musicaux du jeune Debussy sont mis en lumière par Clémentine et le jeune Claude commence donc l'apprentissage de la musique auprès du violoniste Jean Cerutti. Pendant ce temps, Manuel Achille, le père de Debussy, est resté à Paris et il est fait prisonnier durant la Commune. C'est là qu'il rencontre Charles de Sivry. La mère de Charles se nomme Antoinette Mottet de Fleurville. C'est la belle-mère de Verlaine. C'est, dit-elle, une élève de Chopin. Et c'est elle qui enseignera le piano à Claude Debussy.
Thank you.
n'ai entendu que deux beaux pianistes. Ma vieille maîtresse de piano, petite femme grosse, qui m'a précipité dans Bach et qui en jouait comme jamais maintenant. Y mettant de la vie, est-ce une raison parce que Bach portait une perruque pour en perruquer aussi sa musique ? Le second pianiste était Liszt, que j'ai entendu à Rome. Claude Debussy.
D'abord, il ne vient pas d'un milieu de musicien. Hein. Il vient d'une famille assez modeste, pas du tout pauvre, mais une famille qui s'intéressait au théâtre.
Le rédacteur en chef adjoint des œuvres complètes de Debussy, Denis Herlin.
Aucun membre de la famille n'était musicien. Donc déjà, c'était un espèce de miracle que sa tante ait détecté ses qualités musicales. Et quand, 2 ou 3 ans, grâce à Madame Mottet de Fleurville, dont il garde un souvenir ému, c'est-à-dire la belle-mère de Verlaine, il entre au conservatoire dans la classe de Marmontel. Donc c'est déjà quelque chose de miraculeux.
On m'a expliqué au conservatoire que tel accord devait être comme ceci et que tel autre devait être comme cela. Que celui-ci était un cas d'harmonie parfaite et que celui-là n'en était pas. Hier comme aujourd'hui, je croyais, et crois toujours, que l'harmonie parfaite n'existe pas. Lorsqu'on m'enseigne quelque chose, j'ai toujours décidé moi-même si cela était vrai ou faux. N'étant pas capable de prouver mes idées, je tenais à ne pas en parler.
Par rapport à sa formation au conservatoire, il ne faut pas exagérer. Effectivement, il avait besoin d'apprendre tout cela. Il a appris ses règles. Il les a maîtrisées, il les a transgressées. Mais comme il le dit très bien dans une interview, qui est formidable, qui est une interview au New York Times, où il est beaucoup plus libre que dans les interviews françaises, il explique que il se disait « bon, pourquoi faire ci, pourquoi faire cela, alors qu'on peut trouver autre chose ?» Et donc c'est vraiment sa personnalité propre qu'il fait qu'il va essayer de trouver autre chose que le cadre dans lequel on lui demande d'évoluer. Il n'est peut-être pas le seul, en tout cas il est quand même celui qui va, le plus démarquer dans toutes les formes, tant du point de vue du langage harmonique que des formes structurelles, parce que les œuvres qu'il va composer ne sont pas des œuvres dans le schéma habituel, c'est-à-dire c'est pas un poème symphonique, c'est pas un concerto, c'est une fantaisie pour piano et orchestre. Par rapport au poème symphonique, c'est le prélude après-midi d'un faune qui n'a strictement rien à voir. La mer, c'est pas une symphonie, ce sont 3 esquisses symphoniques, donc vous voyez, il va vraiment trouver, comme il dit, essaie de trouver une liberté dans la forme musicale. Il ne veut pas se trouver dans un carcan, que ce soit un carcan harmonique ou une forme stricte dans laquelle il se sent enfermé. Donc vraiment, il va aller chercher ailleurs, puiser ailleurs, un autre imaginaire. Et c'est ce qui fait sa force, c'est ce qui montre qu'il est vraiment le musicien qui ouvre le XXe siècle.
Le style de Debussy est tout à fait particulier, parce qu'on peut quand même parler d'une assez grande rupture avec l'époque précédente, avec le romantisme et certainement avec l'époque classique.
Le pianiste Jean-Claude Van den Heyden.
Alors, ce qui fait son style, c'est que on passe peut-être d'une époque où le sentiment, la poésie était évidemment le fil conducteur. Il y a bien sûr de la poésie chez Debussy, puisqu'il s'est inspiré dans le prélude à l'après-midi d'un faune de Mallarmé, mais on passe à un aspect vraiment pictural de la musique, c'est-à-dire que c'est plus la couleur qui compte dans cette musique que, on va dire, le sentiment au sens du 19e siècle.
Debussy n'embrassera pas la carrière de pianiste virtuose. Il emprunte la voie de la composition. Grâce à son professeur Marmontel, Debussy entre en contact avec Nadejda von Meck. Il devient le professeur des enfants von Meck et il déchiffre avec elle les œuvres du compositeur russe qu'elle adore, Tchaïkovski. De retour à Paris, Debussy se met en quête du Grand Prix de Rome. Il remporte un 2e prix en 1883 et l'année suivante, il décroche le Grand Prix avec L'Enfant prodigue. Lorsque Debussy est à Rome, il écrit « Printemps ». Verdict de l'Académie des Beaux-Arts, On reconnaît chez Debussy un sentiment de la couleur musicale dont l'exagération lui fait facilement oublier l'importance de la précision du dessin et de la forme. Il serait fort à désirer qu'il se mît en garde contre cet impressionnisme vague qui est un des plus dangereux ennemis de la vérité dans les œuvres d'art. 15 mai 1874, nous sommes au 35 boulevard des Capucines dans les studios Nadar à Paris. Se sont réunis les membres de la Société anonyme des artistes peintres, sculpteurs et graveurs.
Traditionnellement, on fait débuter l'impressionnisme en 1874 avec la première exposition impressionniste à Paris.
L'historien d'art, Michel Draguet.
Qui donne un nom impressionnisme. Évidemment, nous, on est habitués à tous ces ismes qui forment des groupes avec des chefs de file et autres. Il n'y a pas véritablement de groupe. C'est une émanation de ce que va donner un peu plus tard, une dizaine d'années plus tard, les artistes dits indépendants. C'est-à-dire, ce sont des artistes dont le passage au salon est en soi perpétuellement problématique et qui, pour pouvoir quand même accéder au public, parce qu'en dehors des salons, on est au début, au balbutiement de la galerie au sens moderne du terme, vont se fédérer pour créer les conditions d'une exposition publique où leurs œuvres pourraient être montrées. Et évidemment, ils prennent le contre-pied du salon. Il n'y a pas de jury, il n'y a pas de jury d'accrochage, il n'y a rien de ce que forment les règles du salon. C'est aussi une réaction à long terme à ce qui a été le salon des refusés, qui n'est pas un salon d'avant-garde, mais qui est une sorte de volonté du politique de montrer au public, dans le fond, tout ce qu'on rejette. Et il faut se rendre compte que ce qu'on rejette en énorme majorité, évidemment on retient le déjeuner sur l'herbe de Manet, mais l'énorme majorité c'est de la peinture amateur. Comme quand on a des salons aujourd'hui, une énorme part de ce qui est présenté là est de la peinture amateur. Et donc les impressionnistes ont été noyés dans ce contexte-là parce que leur démarche n'était pas reconnue comme telle. Alors parler d'impressionnisme, c'est parler de beaucoup de choses différentes, c'est de parler d'une esthétique qui, comme je l'ai dit, c'est une esthétique qui est menée par des artistes très différents. Donc parler de Monet, c'est un discours très 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 différent de parler de Degas, par exemple. Ce sont des œuvres fort différentes. Et puis vous allez avoir des électrons libres comme Cézanne qui, tout en bénéficiant, et au début c'est pas vraiment bénéficier, c'est plutôt subir, l'étiquette d'impressionniste vont évoluer à la marge et ne vont être redécouverts qu'au tout début du XXe siècle par l'action de galeries comme celle d'Ambroise Vollard, par des salons d'automne qui bien souvent, hélas, sont des salons rétrospectifs qu'on organise au lendemain de leur mort. Donc il y a une mosaïque d'artistes qui ont des styles, des manières différentes. Alors si on doit les résumer, on peut dire qu'il y a une révolution qui explique que d'ailleurs ils ne vont pas être appréciés. C'est un peu comme si c'était des peintres académiques qui s'étaient rendus compte que la vérité, mais c'est bizarre comme terme, hein, la vérité, mais que la vérité de la peinture ne se situait pas dans le tableau achevé, mais dans l'esquisse. Et donc, il s'arrête, c'est un peu comme s'il s'arrêtait au niveau de l'esquisse. D'où réaction du monde académique, qui est de dire, c'est quoi ces gars qui s'arrêtent au début d'un travail artistique et qui veulent nous faire prendre comme des œuvres achevées des choses qui ne sont en fait que des pochades. Et cette idée du non-achèvement, il est lié à la conception qu'ont les impressionnistes d'une œuvre qui se dégage en fait d'une certaine manière de ce qui était la tradition littéraire académique. La peinture, c'est une histoire que l'on raconte visuellement pour faire de la peinture la transmission d'une sensation qui est liée à l'instant, qui est liée aux conditions de l'instant. Et évidemment, quand on parle des conditions de l'instant, on parle de la lumière. Alors, je vais donner un exemple qui, à mon avis, peut être intéressant, mais je ne suis pas musicologue, de rapprocher de Debussy. C'est la peinture, depuis la Renaissance, se définit par la perspective. Cette manière d'organiser l'infini de l'espace en le structurant selon une norme qui fait qu'on matérialise l'infini, matérialiser l'infini, ce qui est déjà en soi un contresens, et on ramène dans la perspective, dans la pyramide visuelle, on ramène l'image à un plan qui se définit un peu comme une fenêtre ouverte sur le monde. Et donc on dit aux artistes, vous n'êtes pas dans le monde, vous êtes en dehors, vous regardez le monde à travers une fenêtre, et par rapport à cette fenêtre, vous allez ramener l'infini dans une ligne d'horizon. Cette ligne d'horizon, elle devient réelle et matérielle. Vous allez tracer des orthogonales et tous les objets qui vont se trouver à l'intérieur de cette fenêtre vont trouver leur place. Ce qui veut dire que si j'ai un chien qui fait pipi sur un arbre au premier plan et Jésus et ses compagnons qui marchent à l'arrière-plan, eh bien Jésus est plus petit que le chien. Le Moyen-Âge pratiquait une perspective morale qui n'aurait jamais autorisé ce type de débordement. Tandis qu'ici, la norme, elle s'est imposée parce que c'est l'expérience de la vérité. Les artistes ne vont pas nécessairement accepter l'idée d'être hors du monde. Les impressionnistes sont des gens qui enjambent la fenêtre perspective et veulent vivre dans le monde. Hein, Monet est le plus bel exemple. Ils se rendent compte aussi que, contrairement à la perspective, hein, d'ailleurs quelque chose qui disparaît un peu aujourd'hui avec l'utilisation de téléphone pour faire des photographies. Avant, on fermait un œil, on regardait dans l'objectif, donc on regardait dans une fenêtre, hein, et donc on avait une vision monoculaire fixe, ce qui est le propre de la perspective. Et ils se disent, mais les yeux bougent tout le temps. Et donc l'image de la réalité, c'est une construction permanente de sensations. Et donc l'objet qui est représenté dans un espace perspectif, il n'est pas entouré de vide, mais il est entouré de matière, d'une lumière. Alors vous allez avoir des gens comme Cézanne qui vont faire vibrer la lumière, vous allez avoir Degas qui va considérer que la lumière, c'est une poussière de lumière à partir du pastel, vous allez avoir toutes ces modulations de sensations, mais l'idée, c'est de capter la vérité, non pas la vérité d'une représentation codifiée, mais la vérité d'une sensation. Et donc, cette peinture est une peinture qui met en exergue l'individu, la qualité du regard de l'individu. Ils ne sont pas neufs à ce niveau-là. Turner, en Angleterre, la qualité de la vision, d'ailleurs, c'est rarement aussi lumineux que chez Turner, mais on ne regarde plus le brouillard de la même manière depuis Turner. C'est la qualité, c'est ce qu'on pourrait presque appeler la génialité, c'est pour ça qu'il y a encore un côté très romantique chez les impressionnistes, hein, et entre le monde de la musique, on est beaucoup plus ouvert au concept de romantique, puisqu'on va parler de post-romantique pour parler de symboliste. On va avoir là une captation de la sensation, la vérité de la sensation, c'est-à-dire sa spontanéité, son instantanéité, et cette connexion à, comme disait Mallarmé à propos de Manet, un œil, une main. Et en exprimant ça, on exprime la singularité de l'artiste. Alors cette singularité de l'artiste, c'est un concept évidemment très bourgeois, qui appartient à une époque. Et ça, c'est un autre aspect. Il y a une réalité aussi qui est sociopolitique et socio-économique de l'impressionnisme. C'est inacceptable pour le système académique. Parce que tout l'ordre de l'enseignement, l'académie, comme le dira Marcel Brottard au XXe siècle, c'est une sorte de gigantesque tautologie. On apprend à peindre à l'académie, on apprend à reproduire des modèles, puis quand on a gagné beaucoup de prix, on devient professeur, puis on rentre à l'institut et on contrôle que les autres pratiquent la même technique. Donc c'est en fait quelque chose qui... La légitimité académique est une forme de légitimité tautologique, une auto-légitimation. Et là, il y a des artistes qui sortent de ça et qui disent « Non, moi, ce qui fait mon génie, ce n'est pas que je reproduis des schémas, c'est que mon œil est unique dans sa perception. » Et Monet est probablement la plus belle incarnation jusqu'à l'abstraction dans les années 20, dans les années même déjà à partir de 17. Et donc, à ce niveau-là, c'est des artistes qui sont en marge. Alors évidemment, ils viennent se positionner après un travail qui a déjà été mené par des artistes comme Courbet, et ils vont se positionner à un moment où des galeries s'organisent, qui vont fédérer un public qui partage le même type de valeurs, mais ça a été très lent, douloureux, hein, ils n'ont pas vécu richement pour un certain nombre d'entre eux, et ces artistes vont poser finalement un regard qui est un regard neuf, qui va trouver son public, qui va trouver à s'exprimer, qui va aussi évidemment très rapidement trouver sa reconnaissance là où cette culture de l'individualité est la plus forte, c'est aux États-Unis, et ils vont vendre beaucoup aux États-Unis. C'est de là que, d'une certaine manière, va venir leur première aisance, avant qu'autour des années 1900, ils soient d'une certaine façon récupérés, parce qu'on va trouver en leur démarche quelque chose qui vient se positionner dans une sorte de continuité de la tradition française. Et alors, il y a, à partir des années 1900, un débat sur la reconnaissance de l'impressionnisme comme, on pourrait presque dire, acmé de la tradition moderne française. Et là, un débat nationaliste va venir se placer, qui va être effectivement très important, notamment par rapport à toute une innovation qui vient d'ailleurs, hein, c'est le problème de Picasso face au cubisme, c'est le problème de Stravinsky face à la musique française, où là, par contre, on va avoir une forme de radicalisme qui n'existe pas dans le monde français.
J'essaie de faire autre chose, de créer des réalités, ce que les imbéciles appellent impressionnisme, terme aussi mal employé que possible, surtout par les critiques d'art. Claude Debussy.
Mais je crois qu'il faut le remettre dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire de l'arrivée de l'impressionnisme par ce fameux tableau de Claude Monet, qui est Impression au soleil levant. Et je crois que c'est un malentendu évidemment épouvantable, en ce sens que finalement le terme était un peu méchant. On disait que ça n'est plus de la peinture, ce ne sont plus que des impressions. Et donc c'est de là qu'est né le terme impressionniste et qui est donc parti d'une volonté péjorative. C'est peut-être pour ça aussi que Debussy refusait le terme d'impressionniste. Je crois qu'il faut plutôt le rapporter à un art pictural, c'est-à-dire par rapport à la couleur et de vouloir créer des choses qui sortent de l'académisme